J'avais envie de parler ce matin sur le temps. Le temps, quel sens au temps qui passe, hein ? Parce que les années passent et ne se ressemblent pas toujours, n'est-ce pas ? Alors, que nous a fait 2020 hein ? Ça a été l'année folle dont tout le monde parle. Ça a bouleversé pas mal d'habitudes et de certitudes. Et du coup, on se demande forcément hein, que nous réserve 2021. Mais bon, il ne faut pas tous partir en courant. Hein, on va y arriver quand même. Est-ce qu'on va sérieusement subir 2021, hein, franchement ? C'est notre cher président, M. Macron, qui a annoncé une fois, avec un ton un peu triomphaliste, hein, « Je suis le maître des horloges ». Bon, il fallait un peu de confiance quand même pour dire ça. Puis là, en parlant d'une réforme qu'il voulait voir arriver rapidement, puis entre-temps, il a été rattrapé par la crise sanitaire actuelle, et puis s'est ravisé, il a dit « Actuellement, le Covid est le maître des horloges, on verra tout ça plus tard ». Hein, est-ce que l'une ou l'autre des propositions était juste hein ? L'arrogance de l'homme, elle est bien vite dépassée. Et la déception, elle est grande quand on se rend compte qu'on maîtrise vraiment très mal les choses. Et forcément, ça interroge aussi sur notre capacité, hein, sur la capacité qu'ont les hommes à conduire avec sagesse les temps qui leur sont impartis. Alors, quels sont ces temps qu'on traverse hein ? Est-ce qu'on est bien équipé pour les traverser ? Qu'est-ce que notre génération a à traverser hein ? Et quel angle de vue, quelle lecture du monde on fait ? Quel but à tout ça ? Et est-ce que même l'idée de but a un sens hein ? Tout le monde ne le croit pas. Les réponses qu'on trouve à ces questions, elles peuvent déterminer la force avec laquelle on traverse les temps qui sont devant nous. Hein. Et il est sûrement temps d'envisager l'avenir avec force, puisqu'il est de toute façon celui que nous, on a à traverser. Hein. Chaque génération, elle a eu ses challenges, et finalement, on n'y échappe pas. Alors, ce n'est pas un message super construit ce matin, mais l'idée, c'est surtout de nous interroger, hein, de nous questionner. Quelle est notre attente hein. Que croyons-nous ? Qu'est-ce qu'on s'attend à voir arriver pour 2021, mais aussi pour la suite des temps ? Et qu'est-ce qu'on met en œuvre pour le voir aboutir ? Et parler d'attente et de perspective, c'est aussi et avant tout parler de aujourd'hui, hein, de l'aujourd'hui de Dieu. C'est capital hein, dans la Bible. Elle nous offre un recul hein, sur les temps qui sont accordés au monde. Et en ça, elle nous inscrit vraiment dans un temps long. Mais elle nous inscrit également et vraiment fortement dans notre aujourd'hui, hein, le présent. Que faisons-nous de notre temps hein ? Puisque Dieu nous a fait savoir hein, tout ce qu'il cherche à accomplir, et en plus on sait l'autorité et la puissance qu'il a pour le faire aboutir, alors nous, comment est-ce qu'on participe aujourd'hui à cette grande histoire hein ? C'est la semaine de jeûne et prière, hein, cette semaine, et c'est toujours une occasion tellement profonde de se poser devant Dieu, hein, avec beaucoup d'humilité, en faisant un peu le vide, pour entendre ce que lui, il a à dire. Hein, les directions. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Ça nous a été plusieurs fois rappelé pendant l'année. Et quoi de mieux pour commencer 2021 que de s'arrêter devant lui pour savoir qu'il est Dieu, lui. Hein. Dans tous les temps qu'il a fixés, il a toujours exhorté les hommes à savoir s'en retirer un petit instant hein, pour arrêter tout. Et revenir à lui pour ne pas perdre le cap. Hein. C'est un peu le sens du sabbat et cette semaine de jeûne et prière va pouvoir être mise à profit aussi pour ça. Alors, quelle est notre attente hein, pour 2021, mais aussi pour la suite des temps ? On va voir l'importance de la manière dont on voit les choses. Hein, parce que tout homme croit en quelque chose, même les athées. Même ceux qui disent qu'ils ne croient en rien, en réalité, ils croient toujours. En sciences humaines, on appelle ça un paradigme. C'est une représentation du monde, une manière de voir les choses, de lire les événements. C'est en gros les jumelles avec lesquelles on voit et on perçoit le monde. On a besoin de comprendre le monde, et c'est humain. Ça s'explique bibliquement par la position qu'on a reçue dans la création, être gestionnaire, organisateur du monde. Le mandat culturel de la Genèse. On n'est pas des simples ruminants. Hein. Les ruminants ne se posent pas beaucoup de questions sur demain ni sur hier. On a des capacités bien plus poussées parce qu'on a une responsabilité forte vis-à-vis du monde qui nous entoure. Hein. Pourtant, la connaissance, elle est partielle. Hein. C'est Paul qui nous le dit. On ne voit qu'au travers d'un voile. Mais alors, nous verrons. Nous connaîtrons comme nous avons été connu. Il y aura un temps où on verra plus clairement. Mais pour le moment, on est tous pris dans des paradigmes dont souvent on n'a même pas conscience tellement qu'ils sont profondément inscrits en nous. La Bible, elle appelle ça la foi, ce en quoi on croit. Et cette foi, elle détermine énormément notre rapport aux choses, notre manière de lire le monde, et aussi notre manière d'agir en conséquence, de vivre. Donc la foi, elle est très active, au final, même pour les athées. Il existe différentes manières de voir les choses, rien que dans notre société, alors ne parlons pas du reste du monde. On ne comprend pas tous les choses de la même manière, et c'est ce qui fait aussi qu'on a beaucoup de mal à construire ensemble. C'est le gros problème de l'épisode de la tour de Babel, en Genèse, et quelque part, tant mieux, que Dieu nous ait rendus incapables de construire sans lui un avenir qui fonctionne. Alors la tâche, elle est encore plus difficile parce que la création dont on a à s'occuper, elle est fragile, livrée au pouvoir de la fragilité, nous dit Romains 8. Guerre, famine, épidémie, désordre en tout genre, s'ajoutent à ce que nous, on est capable de créer aussi. Donc l'homme compose avec tout ça, depuis le début, on ne vit rien de plus finalement dans notre génération que ce que la Terre a connu avant ça. Ce qui change, c'est notre manière de l'appréhender et d'y répondre. Est-ce qu'on peut dégager un sens à ce qui se passe sous le soleil, comment comprendre le passé? Comment appréhender demain, et quant à aujourd'hui, avec quoi il nous laisse, avec quoi il nous trouve, On donne tous un sens aux choses, même ceux qui veulent le moins se poser des questions. C'est Paul qui dénonce ce positionnement très clair, quand il dit « vous pensez mangeons et buvons parce qu'en gros demain, on n'en sait rien ». Paul dénonce ce fonctionnement-là et on en rencontre pas mal dans notre société. La société de consommation ne se soucie que très peu de l'impact qu'elle a sur le monde. Dans cette vision-là, on est des consommateurs du monde, pas des gestionnaires efficaces. Et en général, face à un événement compliqué comme une pandémie, le point de vue consumériste en prend un coup. Les perspectives sur l'avenir deviennent vraiment effrayantes. Parce qu'en fait, c'est un système faible qui donne très peu aux gens, très peu de perspectives, très peu de sens. Dans ce système, l'homme, il est à peine un citoyen, en fait. Il a avant tout un portefeuille. Un portefeuille, quand il ne dépense pas, il déprime. Il y a aussi un autre point de vue, celui des fatalistes, les cyniques, les pessimistes, qui pensent que l'histoire est un cycle, qui se répète, un recommencement perpétuel, dans lequel on n'a qu'une toute petite participation. On subit les événements extérieurs. Les saisons s'enchaînent, les années s'enchaînent, et l'homme essaie juste de survivre à ça, de s'en prémunir. Alors si vous pensez comme ça, il est probable qu'une pandémie vous laisse ni chaud ni froid, que vous pensiez à toutes les épidémies que la Terre a connues jusque-là, que vous vous disiez que certains réchapperont, d'autres pas, et qu'ainsi va le monde. C'est un point de vue assez cynique. Il est probable aussi qu'on dépense beaucoup d'énergie à se construire des sécurités, en se disant qu'elles nous aideront à passer la crise. Nos systèmes d'assurance, de prévoyance, les préventions en tout genre, nous prémunissent contre les catastrophes à venir. On vit en réaction aux menaces. On se pense comme des victimes du monde plutôt que comme des gestionnaires efficaces. Alors c'est un système aussi bien en place dans notre société, mais on voit qu'il a des limites, notamment quand la force des événements extérieurs est plus importante que notre capacité à y répondre. À l'inverse complet de ce paradigme-là, on trouve les progressistes. Eux, ils pensent que le monde ira toujours vers du mieux. C'est une vision très positive, notamment sur l'homme. Ils pensent que chaque génération fait avancer l'héritage culturel, fait progresser le monde vers un point de maîtrise. Même les crises, dans cette idée-là, ne font que faire progresser le monde, la technologie, les avancées médicales, etc., et vers un plus grand degré de maîtrise de l'humanité. Dans cette vision-là, il y a forcément moins de fatalisme, parce que l'homme est pensé comme l'acteur principal de ce progrès. On retrouve l'idée de résilience, de combativité, de progrès technologique, tout ça. En fait, le monde va vers un point de toute puissance où rien ne fera plier l'homme. Il se détermine, il détermine le monde. Il y a une très grande importance du je dans cette pensée-là. Je décide, je fais, je projette. Il y aurait beaucoup à dire aussi sur cette pensée-là parce qu'on est baigné dedans. Alors, si vous pensez comme ça, vous aurez sûrement tendance à défier les présupposés, à inventer vos propres normes, à provoquer. Mais il y a un gros danger dans cette pensée, c'est qu'à un moment donné, vous vous rendrez compte des limites même de l'être humain et ça vous fera horreur. Parce qu'une pensée, cette pensée-là, elle est dans la toute-puissance de l'homme. C'est le constat de certains grands milliardaires du moment qui en arrivent à la dérive du transhumanisme. Transhumanisme, c'est un humain au-delà de l'humain qui arriverait à tout dépasser. Être plus libre, plus rapide, plus mobile, plus compétitif, plus intelligent, quitte à ce que ce soit artificiel, parce que c'est quand même pas facile, l'intelligence. Augmenter la longévité, savoir créer des humains, remplacer des membres. On voit les enjeux en ce moment et les questions éthiques que ça soulève aussi. Et est-ce qu'on est toujours capable de trancher ces questions éthiques ? Le problème de cette pensée-là, c'est qu'elle installe l'homme à une place qui n'est pas la sienne. Et qu'elle en arrive à un contrôle abusif sur les éléments, mais aussi sur les créatures, et même sur les humains. Et c'est un mensonge, en plus, on n'est pas des dieux. On n'a aucune notion de ce qu'un monde parfait serait. On ne sait pas vers quoi doit tendre le monde. Et dire qu'il progresse, c'est déjà une très grosse illusion, parce que, par exemple, le XXe siècle n'a jamais démontré qu'on aille vers du mieux. Ça a été plutôt même une triste démonstration dans bien des domaines. Et en plus, ultimement, Dieu ne nous laissera pas faire. Il sait arrêter les plus grands empires quand ils vont au-delà des limites que lui, il fixe. Alors, il y a plein de variantes entre ces caricatures un peu que j'ai posées, mais c'était pour souligner que l'homme seul manque tellement de la bonne perspective pour faire avancer les temps qui sont devant lui. La pandémie qu'on connaît en ce moment est bien là pour nous le montrer. Alors, la Bible, elle ne nous laisse pas seuls et sans grille de lecture de ce qui se passe dans l'histoire de ce monde. Et c'est là qu'il nous faut un renouvellement d'intelligence pour ne pas rester coincé dans les paradigmes de notre société. Quel est le sens de l'histoire du monde, au final si on prend la Bible, on voit que rien ne se passe sans qu'en fait ce soit Dieu qui l'ait décidé ou permis. Et ce, depuis des temps qui nous échappent. La Bible, elle utilise beaucoup de mots pour indiquer aux croyants les temps dans lesquels ils se trouvent. On trouve par exemple le jour du Seigneur, l'aujourd'hui de Dieu, la fin des temps, jusqu'à ce que, en ces temps-là, au commencement, il y a plein de choses qui rythment comme ça le récit biblique, et c'est pour nous donner des indications, pour nourrir notre foi, notre attente, et aussi et surtout pour signer que c'est Dieu, le seul maître du temps et de l'histoire. Pas les cycles, pas le progressisme de l'homme, c'est Dieu avant tout. Alors parler de sens de l'histoire, c'est parler de deux dimensions. Le sens, c'est la direction que prennent les choses, on pense à une flèche qui nous indiquerait un but, et en ça, c'est vrai qu'on progresse vers ce but. Mais l'idée biblique de progrès implique pas du tout une amélioration. Le Nouveau Testament ne nous prépare pas à ce que ça aille de mieux en mieux, d'âge en âge, pas du tout. Les choses, elles vont s'accentuer, elles vont s'amplifier, mais pas aller vers le bon, l'agréable et le parfait. C'est faux. Et c'est seulement parce que Dieu va intervenir puissamment et personnellement, il le fera personnellement, que les choses, l'horreur du monde prendra fin. Il établira un âge glorieux dont on a un peu parlé ce matin, un avant-goût des choses à venir, le à venir de Dieu. Parler de sens des choses, c'est aussi parler, le sens d'une chose, c'est son sens profond, l'essence de cette chose. Que nous raconte l'événement de bien plus grand que lui Et on comprend que dans cette perspective-là de l'histoire, c'est plus qu'une simple accumulation d'événements, mais l'histoire, elle s'étoffe, elle prend un charisme fou, elle embarque chaque génération dans un projet grandiose qui nous dépasse tellement. La Bible, elle sait résumer l'histoire du monde. Elle nous parle d'une création magnifique qui a été suivie d'une chute, une désobéissance. et qui a commencé à inscrire le monde dans un temps de rédemption, hein, qui lui-même sera clôturé par une recréation de Dieu. Hein, la Bible nous en parle. Hein. Il a créé un monde très bon, où l'homme a une place de choix. Hein. On est gestionnaire de ses biens, de Dieu. Mais on a décidé, hein, l'homme a décidé d'imposer un autre rythme à la création. Hein. Et elle a été soumise au pouvoir de la fragilité. Et à partir de ce moment-là, tout ce qui se passe sous le soleil a commencé à connaître une existence bien pâle par rapport à ce qu'elle devrait être. Mais Dieu est intervenu, hein, là encore, puissamment et personnellement. Il n'a pas permis que son œuvre sombre, mais il a fait la promesse aux hommes de leur donner une descendance qui vaincra ce pouvoir de la mort et de la fragilité. Hein. Il a fait rentrer le monde à partir du moment de la chute, là, de suite après, il n'a pas attendu. Il a fait rentrer le monde dans ce temps de la rédemption, hein, de la grâce. Et c'est le temps dans lequel on se trouve. Il a projeté de racheter le monde au prix de son sang et au terme d'une longue histoire du salut, hein, qui nous est racontée par l'Ancien Testament et le Nouveau. Le temps de la rédemption, ça concerne donc toute cette période, hein, jusqu'au jour où Jésus reviendra. Hein. Puis viendra la fin, nous dit 1 Corinthiens 15 au verset 23. Dieu, il a en vue cette recréation glorieuse, hein, cette nouvelle terre, ce nouveau ciel, où tout sera à sa gloire d'âge en âge. Hein. Plus aucun pleur, plus aucune larme. C'est ça la vraie perspective du monde. C'est ça vers quoi il tend. Et si on croit seulement à la mort de Jésus à la croix, notre message, il reste imparfait. Il est déjà très beau, mais il est imparfait parce que Jésus est ressuscité. Ça a été dit ce matin. Il nous a rachetés en vue du monde à venir. La suite de 1 Corinthiens 15 nous le dit d'ailleurs. Il nous dit, si la résurrection et la nouvelle terre n'existent pas, alors notre foi est vaine et sans objet. Passez la route. Il n'y a rien à attendre de plus. Mais heureusement, Éphésiens 1 nous atteste que ce plan il a été établi et très, 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 très en avance sur les temps que nous on connaît. Il nous dit, ce plan, il l'a fixé d'avance, dans sa bonté, en Christ, pour conduire les temps vers l'accomplissement. Hein. Selon ce plan, tout ce qui est au ciel, tout ce qui est sur la terre, doit être... Quoi ? J'ai perdu. C'est quand même le plus important, doit être réuni sous le gouvernement du Christ. Hein. Ainsi, nous avons été destinés d'avance à célébrer sa gloire. Dieu va arrêter tout ça, c'est vrai. Il fera tout passer au travers de son feu et il recréera une nouvelle terre, un nouveau ciel. Hein. Aucun projet fou de l'homme ne peut résister à ce déterminisme-là de l'histoire. Pas les cycles, pas le progressisme de l'homme. Hein. La main de Dieu qui conduit toutes choses d'âge en âge. Hein, ce n'est pas des versets bonus qu'il nous a donnés là, hein, il y a 2000 ans. Il nous les a donnés pour forger dans chaque génération de croyants, et il savait que des générations de croyants allaient s'enchaîner à la suite de ça. Hein. Il nous les a donnés pour nous donner une conscience forte des temps dans lesquels on vit, hein, pour nous inscrire dans cette vision. La suite d'Éphésiens nous le dit, qu'il illumine ainsi votre intelligence, afin que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage de Dieu, hein, que Dieu vous fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur? On sent que Paul arrive au bout de son vocabulaire. Hein, l'extraordinaire grandeur de la puissance, il n'y a pas mieux après pour décrire le projet de Dieu. Hein. Alors est-ce qu'on y croit, franchement, à cette histoire, hein? On ne peut pas lire ça et rester impassible à tout ce que Dieu met en œuvre. Quel est notre paradigme, hein, notre vision pour ce monde? Au final, on vit dans la vie sur Terre, c'est comme une parenthèse au final dans l'éternité. Et on n'est pas habitués, nous, dans nos quotidiens, à prendre conscience que cette éternité, elle est bien autre que ce que nous, on vit sur Terre. Hein. C'est comme un peu une pièce de théâtre. C'est la conséquence de la chute. On l'a vu, le monde il est entré dans une parenthèse fragile, hein, où la mort met fin à beaucoup de choses de manière prématurée et souvent insupportable. Hein. Dieu il a imparti un temps à chaque chose, durant laquelle elle vit, elle grandit et puis elle passe. Hein. C'est l'Ecclésiaste qui nous le dit. Et c'est dur. C'est dur parce que, quelque part, quelque chose en nous nous dit que ce n'est pas ce qui devrait être. Hein. Avec les trois premiers chapitres de la Genèse, on comprend qu'on ne maîtrise pas le temps. D'ailleurs, il a été donné aux astres, hein, en Genèse. On l'organise, on le gère, et il nous limitera toujours. Hein. Et c'est une bonne chose, même quand c'est dur. Alors, si notre cœur crie et s'insurge devant tout ce qu'on voit sous le soleil, n'oublions jamais que c'est le fait de l'homme. Hein. Aucun animal, aucun arbre mal planté, aucun astre mal fixé dans le ciel n'est responsable de ce pouvoir de la fragilité qui est venu présider au temps du monde. C'est le fameux tic-tac, 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 tic-tac. Vous savez, dans les films un peu à suspense, là, qui nous fait partir le cœur à plein galop, parce qu'on se rend bien compte qu'on ne maîtrise pas bien les choses. Hein. On le gère, on l'administre le temps, selon ce qu'on a à cœur, hein, selon ce que l'on croit. Alors Dieu dans la Bible nous donne des indications hein, sur ces temps qu'on traverse et c'est pour nourrir notre attente. Hein. Parler d'attente et de perspective dans la pensée de Dieu, c'est avant tout parler de aujourd'hui, hein, l'aujourd'hui de Dieu. Hein. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Hein, c'est capital. Elle nous offre hein, ce recul sur les temps, on l'a vu, mais c'est pour nous donner une conscience plus aiguisée sur ce que nous, aujourd'hui, on a à vivre. Hein, sur le temps que Dieu nous impartit, parce qu'au final, il est précieux. L'aujourd'hui de Dieu, hein, c'est l'évangile de Luc qui est rempli, qui est ponctué de cette expression « aujourd'hui ». C'est une formule un peu opératoire qui est généralement nous met chacun devant notre responsabilité propre. Hein. Que faisons-nous de notre aujourd'hui ? Du temps qui nous est donné. Hein. Comment on participe à cette histoire dans laquelle Dieu nous a embarqués ? Alors la Bible, elle met en garde contre plusieurs réactions inadaptées. Hein. Elle nous parle de la passivité, de l'endormissement, du manque d'ardeur, de l'oubli, l'oubli dans les passions du monde. Hein. C'est notamment cette attente passive qui est dénoncée par Paul chez certains Thessaloniciens, hein, certains s'étaient arrêtés de travailler carrément parce qu'ils pensaient que Jésus revenait de manière là, maintenant ou peut-être demain. Donc ils se disaient à quoi bon travailler, à quoi bon planter des arbres, à quoi bon faire plein de choses si Jésus revient au final. Hein. Paul leur dit non, hein, et il les exhorte à réinvestir avec intention ces domaines. Hein. C'est la parabole des vierges folles aussi, ou l'endormissement des disciples quand Jésus leur demande d'être avec lui. C'est les vignerons, les ouvriers qui ont perdu le sens de ce qui leur était confié en attendant le retour du maître. Hein. C'est les lettres aux églises dans l'Apocalypse qui parlent de la tiédeur du cœur, de l'oubli du premier amour. Hein. Veillez et priez, rachetez le temps, parce que le temps est court. L'attente hein, du Seigneur dans la Bible, elle n'est jamais démobilisée, elle n'est jamais passive. Hein. Dieu nous encourage tellement, il a tellement envie qu'on participe à cette œuvre que lui il a mise en place. Soyons intentionnels, hein, courons vers un but précis. C'est Paul qui utilise cette magnifique image du coureur olympique parce qu'on connaît toute l'ardeur et la pugnacité hein, de ces athlètes qui s'entraînent jour après jour avec une chose en tête. Hein. Dieu, il a créé l'homme avec des capacités géniales, quand on regarde. Hein. Il nous a créés comme ça, parce qu'il savait ce à quoi il nous appelait. Et en plus de ça, il nous fait des dons par son esprit. Hein. On n'est donc pas sans rien pour participer à cette histoire. Hein. Notre vie, elle est pourtant bien courte. Hein. Elle est comme un souffle. Hein. Elle passe bien vite. On est des voyageurs et des forains sur cette terre. Hein. Il faut donc faire bonne gestion de chaque jour que Dieu nous donne parce qu'il est précieux. Il est un bien précieux. Et on est riche hein, pour traverser cette histoire. On a un mandat sur terre. Hein. Quand Jésus est venu il y a 2000 ans, il a ouvert le salut à l'ensemble du monde. Hein. Le peuple de l'ancienne alliance avait reçu le mandat de faire naître ce fils de la promesse et de garder les commandements, hein, les projets de Dieu pour les expliquer ensuite au reste du monde. Hein. Et nous, on est dans ce temps, hein, l'Église, elle a cette vocation de faire connaître ce plan-là à l'ensemble de la création. Hein. C'est 2 Corinthiens 5, verset 18 qui nous dit « Vous avez reçu le ministère de la réconciliation. Hein. » On est dans ce temps de rédemption pendant lequel Dieu invite son Église à réconcilier le monde avec lui. C'est quand même magnifique. Hein. On n'est pas laissé sans perspective pour chacune de nos journées. C'est Romains 13, verset 11, qui nous dit « Faites ceci, d'autant plus que vous savez dans quel temps nous sommes. Hein? C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit tira sa fin, le jour va se lever. Débarrassons-nous donc de tout ce qui se fait dans les ténèbres. Hein? Puisqu'il va y arriver ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Revêtons-nous de l'armure de la lumière, vivons correctement comme il convient en plein jour. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. » Dieu nous appelle tellement à faire partie de cette histoire folle. Et ça passe aussi par la persévérance, jusqu'au bout. Forcément, on se demande par moments, mais Seigneur, ça veut dire quoi tout ça ? Franchement, on en est où ? On perd le cap parfois. C'est le cri des rachetés dans l'Apocalypse qui dit « Jusqu'à quand, Seigneur, Maître Saint et véritable, tarderas-tu » On sent ce cri du cœur. Et ce n'est pas une formule de l'Apocalypse, elle le reprend dans énormément de livres dans la Bible. On retrouve ce « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Moi, j'aime tellement tomber sur une de ces formules parce qu'on voit que ce soit en moins 4000, en moins 3000, en moins 1000 avant Jésus-Christ, ou que ce soit juste au moment où Jésus était là, chaque génération s'est posé cette question-là. Jusqu'à quand, Seigneur, Maître Saint et véritable ? C'est le cri du cœur de chaque génération qui a vu s'enchaîner les guerres, les famines, les épidémies, les divisions, les injustices, mais aussi les belles choses, les naissances, les projets, les réussites. Il y a toujours quelque chose qui crie au scandale dans notre cœur. Aucune génération n'a été satisfaite complètement de ce qu'elle voyait. Il y a dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité. On sait que ce théâtre, il conduit à un rendez-vous avec notre Créateur. Alors, Paul, il relativise la peine qu'on se donne. Il nous dit, on n'a pas eu à lutter jusqu'à la mort encore. Et quand bien même, il nous dit, quand bien même la mort serait là, elle m'est un gain. Il est choquant, Paul, quand même. Il avait compris quelque chose qui, bien souvent, moi, m'échappe. Il nous dit, en Romains 8, par exemple, « J'estime que la souffrance du temps n'est rien. » comparé à la gloire des choses à venir. Il n'avait pas du tout peur de choquer. Parfois, on arrive dans une situation dramatique. Ben lui, il est capable de dire « Non, mais ça, c'est rien par rapport à ce qui nous attend. Ça va être magnifique. Alors, gardons le cap, gardons le courage. » Il n'avait pas peur de choquer, Paul. Parce que la question de la souffrance, elle est quand même bien là. Le temps, il est long. Le temps du monde, il est long. Mais le temps qui nous est imparti à chacun, au final, il est relativement court. On a quoi, 80, 90, 100, 110 ans au plus à investir. C'est un temps suffisant, selon Dieu, qu'il nous donne. C'est vraiment un cadeau, c'est un don précieux. Chaque journée est un cadeau précieux. Alors, relativisons à notre attente. Le monde a beaucoup à attendre parce que c'est une grosse machine. Et c'est le temps qui lui a été donné à lui. Le nôtre, il est beaucoup plus court. Notre part individuelle est plus courte. Et au final, il est vraiment précieux, ce temps-là. Alors, qu'allons-nous investir pendant cette année, pendant les années qui arrivent ? Qu'avons-nous déjà investi et qui est digne de louange pour le Seigneur ? Vous connaissez cette citation de Martin Luther, donc c'était en 1500 et quelques, donc ça fait déjà un petit moment que l'homme se pose cette question du retour de Jésus. Il nous dit « Si l'on m'apprenait que la fin du monde est pour demain, je planterais quand même un pommier. » Cette ardeur, cette pugnacité de Luther jusqu'au bout, jusqu'à la dernière minute, on ne concède rien. Alors, nous connaîtrons comme nous avons été connus, mais aujourd'hui, ce aujourd'hui de Dieu. En conclusion, je nous laisse complètement seuls et sans réponse par rapport à comment occuper notre temps. Donc, je suis un peu passée à côté de ça. Mais en fait, je suis sûre que Dieu saura utiliser cette semaine qui est devant nous pour nous dire ce que lui, il attend de notre aujourd'hui. C'est lui dans la Bible qui vient révéler aussi ce qu'ils ont à faire devant eux. Alors soyons attentifs au projet que Dieu met sur nos cœurs. C'est parce que c'est parfois juste des toutes petites graines qui méritent qu'on déjà les voit, qu'on les entende et puis qu'on en prenne soin derrière. Alors, vous avez aimé Narnia, peut-être, Le Seigneur des Anneaux, Matrix, toutes ces épopées qui nous déroule une certaine vision de l'histoire, hein, un certain paradigme qui est souvent éblouissant, hein, et ben c'est ce que fait la Bible, d'un bout à l'autre. Elle nous déroule une histoire qui est juste époustouflante. Hein. Et ce que Dieu nous dit quand il nous parle d'avenir, c'est pas notre horoscope du lendemain. Hein. Il faut lui pardonner ça, mais il a quand même une vision bien plus grande et puissante de ce qu'est l'avenir. Hein. Il a un autre rapport au temps et il nous invite à nous accorder sur lui, parce que nous, on n'a pas la bonne perspective. Pas avec les fatalistes, pas avec les progressistes et ni avec les insensés. Hein. C'est dans ce temps qui nous est donné que se jouent beaucoup de choses. Hein. Alors ne passons pas à côté, ne soyons pas distraits. Moi, je suis tellement distraite, hein, souvent, par une chose, puis l'autre, puis une autre, tout ça. Je passe facilement à côté de mon temps. Ou on est parfois anesthésié par les circonstances. Hein. Ne nous laissons pas dicter notre temps, nos activités. Hein. Soyons gestionnaires, administrateurs des biens de Dieu, en ayant ces choses, en ayant en vue ces choses qui sont bien plus grandes, hein, que simplement nous-mêmes. Sinon, on passera à côté, hein, de nos vies. Et je ne suis pas du tout en train de parler là de perdre du salut. Hein, pas du tout. Ce n'est pas du tout de ça dont il est question. Mais c'est juste que je pense qu'en fait, si Dieu ne nous a pas retirés du monde au moment où on a été sauvés, c'est parce qu'il nous dit allez-y, continuez, participez à ce temps de patience, participez à ce temps de rédemption. Hein. Si on oublie, hein, si on devient ces ouvriers qui ont perdu le sens, Dieu nous retrouvera tout tremblant, hein, devant un virus, ou devant la peur du chômage, ou livide à la pensée de perdre nos maisons. Hein. Et si on a la santé, le bonheur, la famille, des divertissements, c'est un don de Dieu, hein, nous dit l'Ecclésiaste. Il faut vraiment en profiter et ne pas avoir honte de ça, parce que Dieu nous appelle vraiment à aussi profiter de ces dons sur terre. Hein. Mais ce n'est certainement pas pour nous faire perdre de vue l'essentiel. Et les deux ne s'opposent pas. Il y a dans le cœur de l'homme cette pensée, hein, de l'éternité qui nous attire vers ce point de rencontre avec notre Créateur. Hein. Pourtant, le Nouveau Testament ne nous dit pas que les temps de la fin sont simples, ni idéaux. Hein, idéal, je ne sais pas. Sûrement parfois qu'on perd courage aussi. Hein, mais rappelons-nous de ce cap, hein, de ce but. C'est lui qui nous tient réveillés. Hein, c'est lui qui donne le sens à notre aujourd'hui. L'aujourd'hui de Dieu. Rien n'a changé. Dieu, il est toujours maître des temps, des circonstances, et il nous invite à participer à cette épopée. C'est 2 Pierre 3 qui nous dit « Sachez tout d'abord que dans les derniers jours, des moqueurs viendront, qui vivront au gré de leurs propres désirs. Ils tourneront votre foi en ridicule en disant « Eh bien, il a promis de venir, mais c'est pour quand, hein, jusqu'à quand ?» Nos ancêtres sont morts, et depuis que le monde est monde, rien n'a changé. Vous les sentez là, les fatalistes, hein. Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis, c'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, parce qu'il ne veut pas qu'un seul périsse. Hein ? Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir, et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Hein ? En ce jour-là, le ciel disparaîtra dans un fracas terrifiant et les astres embrasés se désagrégeront. La terre se retrouvera jugée avec tout ce qui a été fait sur elle. Puisque tout l'univers doit ainsi se désagréger, quelle vie sainte, puisque tout ça doit arriver aujourd'hui, quelle vie sainte vous devez mener, combien vous devez être attaché à Dieu en attendant que vienne le jour du Seigneur et en attend sa venue. Hein ? Nous, nous attendons, comme Dieu l'a promis, le nouveau ciel, la nouvelle terre où la justice habitera. Comprenez bien que la patience de Dieu est le salut des hommes. C'est en effet cette révélation des fils de Dieu que la création attend avec un ardent désir, nous dit Romains 8. La création attend qu'on se révèle en tant que fils et fille de Dieu. Elle connaît la création, la douleur de l'enfantement. Elle sait de quoi elle va accoucher. Hein. Elle a une espérance et ça va être glorieux. Alors, participons tous, hein, à ce magnifique, hein, projet. Voilà, merci Seigneur de nous avoir expliqué tellement de choses et pourtant, on les comprend mal ou qu'en partie, Seigneur, mais tu nous y conduis, Seigneur. C'est toi-même qui nous y conduis avec patience, avec force, Seigneur Dieu. Seigneur, viens illuminer notre intelligence pour qu'on comprenne mieux, qu'on s'accroche mieux à tes projets, à la réalité qui est la tienne et qui est celle qui supplante toute autre idée sur terre. Tu ne nous laisses pas dans notre génération, Seigneur. Ton message, il est éternel, il est fort, Père. Donne-nous de savoir le saisir quand tu nous l'expliques, Seigneur Dieu. Crée en nous le vouloir et le faire, en attendant que vienne ton jour, Seigneur Dieu, que nous attendons tellement, Seigneur. Viens briller, Seigneur, au travers de nous, dans ces temps de rédemption que toi, tu as décidé pour la terre. Alors viendra ton jour et nous serons tous genoux à terre, Seigneur, pour t'adorer et commencer cette nouvelle aventure que tu nous présenteras, Seigneur. Amen.